Parfait. Alors, Madame Gonzalez va rester avec nous et je vais demander aux autres participants à la table ronde de venir prendre place autour de la table, qui n'est pas tout à fait ronde, mais... Bien, je vais vous présenter les personnes que vous n'avez pas encore vues et qui viennent de nous rejoindre. Alors, d'un côté, nous avons, excusez-moi, Monsieur Roland Benz, qui est... Oui, écorchez votre prénom. Non, je n'ai pas écorché votre prénom. Qui est à la fois physicien et pasteur, et qui a par ailleurs une expérience de... d'enseignant, excusez-moi, je fatigue, et qui est membre du groupe Culture religieuse et humaniste à l'école. Et puis, nous avons, à bout de la table, Laurent Vité, qui est directeur de la Société pédagogique, non, on ne dit pas directeur, on dit directeur, de la société, président de la Société pédagogique genevoise, mais qui représente ici l'ensemble, enfin la Fédération des enseignants genevois, qui représente l'ensemble des fédérations d'enseignants. Alors, on a dépouillé vos questions. Et au fond, il y a une assez grande congruence, bon, il y a une ou deux questions qui sortent de ce spectre, autour de trois grandes questions, me semble-t-il, voire même deux. La première, c'est au fond celle des limites de cette merveilleuse ouverture à la diversité. Il y a des limites, il y a des questions qui sont posées autour de la place qui est faite aux traditions nationales, aux traditions qui ont formé finalement la culture du lieu. Aussi, qu'est-ce qu'on fait avec le créationnisme, qu'est-ce qu'on fait avec la question du genre. Ensuite, il y a plusieurs questions, et c'est intéressant, autour des fêtes vues comme une occasion d'affrontement religieux ou vues au contraire comme une occasion de parler intelligemment de la diversité. Et puis, il y a un très 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 gros paquet que je réserve pour la fin du mois de notre échange autour de la table, ben sinon je pense qu'on n'en sortirait pas, qui a déjà été abondamment abordé, mais qui reste, je pense, tout à fait central et crucial. On attend énormément de cet enseignement, on demande beaucoup aux professeurs, mais comment peuvent-ils être formés, comment peuvent-ils être aidés à faire ce qu'on attend d'eux. Alors, s'agissant de la première question, il y a cette question, mais au fond, quelle place on fait à nos propres traditions? Est-ce que c'est légitime de les mettre au même niveau que les autres? Est-ce qu'il faut les privilégier, comme ça se fait, je crois, au Québec? Et ça tourne d'autre part autour d'une question de fait qui a déjà été discutée, je crois, mais que je pose quand même au professeur Bourgeot rapidement. Puis je le laisserai peut-être enchaîner sur la question de faut-il privilégier ou non la culture locale, qui est celle des grands textes. Je crois que c'est dans la première brochure où ne figure aucun texte du Nouveau Testament. Pourquoi? Et puis au-delà, quelle légitimité à privilégier ou à ne pas privilégier la culture nationale? Professeur Bourgeot, c'est à vous.
La question, plus précisément, c'est quoi?
Alors, il y a une question, excusez-moi, oui. De fait, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de texte sur le Nouveau Testament, du Nouveau Testament, je crois.
On part de là, puis on...
Mais rapidement, parce que c'est une réponse actuelle, et puis ensuite sur l'opportunité.
On essaie de déboucher sur autre chose. Oui, alors partir de là rapidement, effectivement, puisque ça serait même un peu outrecuidant de ma part de répondre circonstanciellement à cette question de savoir pourquoi il n'y a pas de Nouveau Testament explicitement dans la première année des grands textes, puisque la réponse a été donnée par le Conseil d'État le 2 février 2012, au Grand Conseil, donc je ne veux pas reprendre, la réponse est très claire. Je dirais simplement de ma part qu'il n'y a pas de volonté d'écarter le christianisme, ça c'est une certitude, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu la moindre intention d'écarter le christianisme. Il y a peut-être eu une certaine maladresse, c'est possible, je ne sais pas, parce que semble-t-il ça a heurté certaines personnes qu'on n'entre pas dans les textes avec un texte du Nouveau Testament. Mais en fait, on parle du christianisme abondamment, on parle de la Bible, on parle de Saint-Augustin, de la tradition chrétienne, de Las Casas, de Calvin, de Bossuet. Le christianisme est présent dans l'iconographie aussi, ça c'est important, c'est une chose importante à dire. Et le Nouveau Testament entre explicitement en deuxième année avec la loi le sermon sur la montagne qui nous a semblé important. Donc je ne veux pas revenir là-dessus. Si tu veux, je peux aussi répondre à la question de savoir pourquoi on n'a pas parlé du Nouveau Testament à propos de la résurrection des corps. Eh bien, c'était justement pour mettre en évidence l'importance de la pensée juive, c'est la pensée juive qui a développé l'idée de la résurrection des corps, et le christianisme n'a jamais fait que reprendre cette affaire juive. Donc dans la brochure de première année, quand on parle de la résurrection des corps, effectivement, on parle de textes de l'Ancien Testament, mais qui sont constitutifs de la tradition juive. Donc ça, c'était une chose importante, parce que ce qui nous importe, c'est la diversité et le vivre ensemble. Et le fait de mettre l'accent sur la pensée juive à ce moment-là avait peut-être aussi, je dirais, je parle en mon nom là, une fonction qui était celle d'affronter directement les problèmes de la diversité, et surtout d'affronter directement le problème de la tolérance, et puis du vivre ensemble sous l'angle aussi du refus des exclusions. Hein. Ça vous a paru très, très, très important. C'est d'autant plus important que ça continue avec l'ensemble des trois brochures. Et la troisième brochure, c'est vraiment, comme l'a expliqué Mme Nicolazzi, la troisième brochure est vraiment centré sur le problème de l'altérité, du rapport à l'autre, l'autre intérieur, mais l'autre extérieur aussi. Donc maintenant, pourquoi, juste alors un mot, mais alors une seconde, pour ne pas monopoliser du tout la parole, que fait-on de l'équilibre entre la nécessité de tenir compte de l'autre dans la diversité des cultures, et l'autre nécessité qui est de tenir compte de notre propre origine et de notre propre tradition locale. Ça, c'est très important. Et je pense qu'on a essayé de le faire. Alors, je répète encore une fois, on n'a pas fini. On est perfectible. Il y a un observatoire, Mme Nicolazzi l'a dit, qui planche là-dessus. On va peut-être introduire des modifications. On va essayer de faire mieux. Ça, c'est clair. Mais disons qu'on a tenu compte aussi, pas seulement des civilisations différentes de la nôtre, mais aussi de notre propre histoire culturelle spécifique qui a été marquée ici dans le contexte genevois, et je pense de manière majeure, par des figures comme, évidemment, Calvin, Rousseau, Voltaire, qui sont présents dans les grands textes, et qui le sont même fortement, sans parler d'autres figures féministes ou autres, et même dans la brochure de 11e, vous allez rencontrer des figures de la résistance locale. Donc, voilà.
Merci. Monsieur Benz, peut-être sur cette question de la nécessité ou non de privilégier nos propres traditions, est-ce qu'on le fait suffisamment ?
On l'a vu dans tout ce qui a été dit, par exemple de ce que dit Madame Gonzalez a dit, qu'effectivement, les questions par rapport à notre propre culture, d'où nous venons, sont assez fréquentes, ce qui est normal. Donc je dirais qu'il y a un accent plus important sur ces grandes religions-là, m'apparaît nécessaire, même s'il est intéressant d'avoir des récits de création d'une tribu amazonienne, je pense qu'il serait intéressant, par exemple, au moins dans les grands textes, et ça c'est une petite remarque que je fais au passage, d'avoir le récit de la première page de la Bible, de Genèse 1, non pas comme prolongement, mais comme texte qui a structuré beaucoup de choses dans la société, même dans le rapport aux sciences, et qui est souvent justement très mal compris et interprété, notamment par les mouvements créationnistes, donc qui fait débat. Donc là, je suis très réjoui de voir que j'ai entendu Mme Nicolazzi qui parlait d'un observatoire, d'un travail qui continue pour que des évaluations soient faites, qu'on tienne compte des avis différents, notamment des enseignants. Ce que j'ai personnellement craint à propos des grands textes, ce qui me semble, c'est qu'il y a encore un travail pédagogique à faire, je l'ai entendu de la part aussi des enseignants, de faire que ce soit peut-être parfois plus accessible. Il y a des textes difficiles, étant donné notamment que les enseignants disent ne pas avoir suffisamment de formation. Donc, je me suis très réjoui de ce qui est ces grands textes, c'est une belle initiative. Je suis aussi réjoui qu'on continue à travailler là-dessus. Je pense qu'on aurait pu davantage aussi consulter des gens, des universitaires autres que ceux des sciences des religions, par exemple, il y a une faculté de théologie à Genève, et quand on dit théologie, ça n'est pas la fermeture. Si vous suivez un cours de théologie d'exégèse biblique, vous vous rendrez bien compte que c'est extrêmement critique. Donc, qu'on recourt aussi à des spécialistes des différentes religions pour qu'ils donnent l'avis. Leur avis est davantage de pédagogue.
Je vous remercie. On donne rapidement la parole à Mme Nicoletti, puis on prendra du champ en demandant à Mme Estivalès de nous dire ce qui se fait au Québec.
Oui, très, très rapidement, je voudrais simplement rappeler une dimension que je n'ai pas peut-être fait ressortir par rapport à l'enseignement des grands textes. Mais cet enseignement s'inscrit dans le cadre de l'enseignement de l'histoire. Or, l'histoire aborde également les grandes religions, aborde un certain nombre de choses tout à fait en profondeur, et nous n'avons pas voulu répliquer un certain nombre de points. Par rapport aux pédagogues que vous mentionnez, je tiens quand même à rappeler que des pédagogues ont été associés depuis le début de ces travaux, continuent à y être. Ils sont partie prenante de l'Observatoire. Et si j'entends bien la difficulté qu'ils font remonter, qui est celle de la charge supplémentaire de cette approche, avec une posture un peu différente de leur enseignement d'histoire, qui est lui-même extrêmement chargé, si j'entends bien le fait que l'articulation et avec certains points du programme d'histoire sont plus délicates quand on veut essayer de donner du sens et de bien contextualiser les grands textes, et si j'ai entendu que effectivement certains textes peuvent être difficiles pour les élèves, je pense que dans l'ensemble il n'y a pas de remise en question de la démarche, des thématiques, de la dynamique. Sur la difficulté des élèves, c'est un grand débat dans l'école genevoise qui était, je crois, et il faudrait peut-être le souligner, soutenu par un des principes du nouveau cycle d'orientation, une ambition de formation pour l'ensemble des élèves, quelle que soit sa place dans la scolarité, et puis l'introduction d'un plan d'études roman qui met l'accent sur l'aspect culturel. Par ailleurs, on s'aperçoit que la médiation culturelle, que l'ouverture aux grands textes, que ce soit en français, que ce soit en histoire, ou que ce soit dans l'appréhension de la langue et la culture latine, est nécessaire et concerne de plus en plus la plupart de nos élèves. C'est vrai qu'il y a une difficulté pour un enseignant à travailler le texte autrement, c'est-à-dire s'autoriser à le lire, à le raconter, s'autoriser à ne pas systématiquement questionner l'élève et lui faire réciter les mots de vocabulaire difficiles, passer outre pour aller au sens. Et c'est vrai que là, il y a un défi, et c'est dans ce défi-là que nous essayons de travailler et que nous mettons en place les formations qui sont nécessaires, qui seront nécessaires pendant un certain nombre d'années. Je voudrais juste rappeler, nous avons maintenant seulement 2 ans de recul pour l'enseignement des grands textes 9e. Nous avons 7 mois peut-être pour l'enseignement des grands textes 10e. Et nous n'avons pas encore mis en place la 3e année. Je crois, j'ai entendu dire, et ça m'a beaucoup réjoui, qu'au Canada on avait besoin de sérénité, on avait besoin d'un temps, d'un espace, et on a besoin de s'approprier les choses. Les appréhensions pour la mise en place de l'introduction des grands textes 9e, sont dépassés maintenant. Ça devient la référence par rapport à la 10e année de ce qu'il faut faire et comment il faut le faire, et puis qu'on ne voit pas encore tout à fait les fils. Donc je pense qu'il faut avoir du temps. Rien n'est terminé, rien n'est bouclé définitivement. Notre but, c'est que cet enseignement fasse sens du côté des élèves, qu'il leur apporte quelque chose, et notre but était tout au long de pouvoir expliciter, de pouvoir entraîner le plus grand nombre d'enseignants à avoir cette posture, qui est une posture, comme on l'a vu dans la présentation canadienne, qui touche à la fois des postures d'historien, mais aussi de philosophe, mais aussi une très, très grande réserve par rapport à ses propres convictions, ses propres croyances. Et moi, je mettrai là la plus grande difficulté, plutôt que d'un retour à un patrimoine ou à privilégier une culture sur l'autre. Je voudrais dire aussi que le programme d'histoire permet des choix, permet aussi de travailler sur tout ce qui est la chrétienté, et que là, il n'y a pas quelque chose que nous avons omis parce que nous savons qu'il existe.
Je vous remercie. Encore juste peut-être Mme Estivalès sur cette question de privilégier la culture nationale.
Oui, je vais être très brève. Je l'ai déjà évoqué, comme il y a une dimension patrimoniale au programme d'éthique et culture religieuse, il est certain que le christianisme bénéficie d'une place privilégiée qui s'explique donc au regard de l'histoire, au regard aussi des approches artistiques qui peuvent être faites. Mais je dois dire que les religions dites minoritaires se sont énormément réjouies de ce programme d'éthique et culture religieuse, même si elles bénéficient de moins de places qui leur a accordé parce qu'auparavant, elles n'avaient rien. Comme il y avait des enseignements confessionnels catholiques ou protestants, on ne parlait pas de l'islam, ou très peu, on ne parlait pas de l'hindouisme, pas du bouddhisme. Donc c'est vrai que ces religions ont été très enthousiastes par ce nouveau programme et ne sont pas dans une logique de revendication d'avoir exactement le même volume horaire. Je pense qu'elles comprennent très bien que dans une société marquée par le christianisme, il est légitime d'accorder plus de temps à des découverte d'univers symboliques, d'univers de sens qui sont marqués par le christianisme. Donc je pense que cet équilibre, on arrive à le trouver. Là où il y avait une contestation plus, c'est du côté des visions séculières du monde, où certains déploraient le fait, et ils n'ont peut-être pas tout à fait tort, qu'on ne leur accordait pas suffisamment d'espace pour prendre en considération les conceptions de la vie bonne qui ne sont pas référées à un socle de convictions religieuses.
Je vous remercie. Je crois qu'on va passer à la question suivante, qui est celle des fêtes. Les fêtes, visiblement, ce n'est pas toujours très facile, enfin, vu par les parents d'élèves, du moins, qui disent les professeurs n'ont plus le droit de parler de Jésus à Noël, mais seulement des sapins. Je voulais un peu poser la question peut-être à M. Vité. Est-ce que c'est un sujet de préoccupation pour les professeurs, les fêtes ? La gestion des fêtes, disons.
Alors, merci. Peut-être que la première chose que je peux dire, c'est que, étant membre de la FEG, je ne prétends pas ici la représenter parce que j'ai eu beau chercher en long, en large, en travers, je n'ai trouvé aucune position sur l'ensemble des questions que nous débattons ce matin. Donc je serais bien en peine de vous rapporter un avis de la FEG. Il existe par contre une prise de position du syndicat des enseignants romands, SER, qui date de 2004 sur la question. Bon, pour les fêtes, moi j'ai envie de placer cette question-là un petit peu dans ce que Mme Gonzalez nous a présenté. C'est-à-dire qu'effectivement, on est confronté, de gré ou de force, à cette question-là, et qu'il faut un petit peu se dépatouiller avec cette question-là. Moi, je pense que ce qui interroge beaucoup les enseignants, vous l'avez dit aussi, c'est les limites de l'ouverture, jusqu'où j'ose aborder ces questions-là avec les élèves, à partir de quand je dépasse la limite, qui fixe cette limite, où est-ce qu'elle est définie ? On entend par exemple pour le primaire, Mme Vuillemin l'a dit tout à l'heure, que des directives sont en cours, ce qui veut dire qu'actuellement elles n'existent pas. Est-ce que j'ose prononcer le nom de Jésus en classe ? Est-ce que ça se fait ou pas ? Et qui répond à cette question-là dans le fond ? Donc il y a toujours une prise de risque de la part de l'enseignant par rapport à ça. Moi j'interroge beaucoup le concept de neutralité. Il est certes important, mais qui le définit ? Qu'est-ce que ça veut dire d'être neutre ? C'est des questions drôlement épineuses. Et puis alors, dans le feu de l'action, je dirais, de la classe, on n'a pas le temps de se poser ces questions-là. Et très souvent, ces questions-là émergent et on doit les résoudre justement dans le feu de l'action quand on n'a pas eu le temps d'y réfléchir et qu'on n'a pas eu le temps de se positionner avant. Alors, peut-être qu'il faudrait initier, stimuler cette réflexion avant, parce que là encore, on a dit tout à l'heure que dans les projets d'établissement, il y avait beaucoup qui concernaient, alors oui, qui concernaient le vivre ensemble. En gros, c'est les règlements de récréation, parce qu'il y a beaucoup de bagarres dans le préau. Mais je ne pense pas que sur la question de comment est-ce qu'on fête Noël dans l'établissement, comment est-ce qu'on fête Pâques dans l'établissement, parce que Noël, c'est encore facile, hein. Il y a un petit enfant, pour le primaire, je parle du primaire, hein. Il y a un petit enfant, donc c'est quelque chose qui est assez proche des enfants, mais parler du Christ qu'on a cloué en croix à Pâques, c'est un tout petit peu plus complexe avec des 4 ans.
Mais est-ce que finalement, vous parlez de la perplexité des professeurs face à quoi faire de leurs propres convictions, finalement ? Est-ce que les directives ne sont pas assez claires ? Bon, au Québec, clairement, on leur dit « vous devez théoriquement ne pas en faire état ». Est-ce que, quelle est la situation à Genève ? On laisse ça un peu à leur appréciation ?
Non, je ne crois pas qu'on laisse les choses à l'appréciation des enseignants. Je crois qu'on est simplement entré dans un processus et une démarche qui a beaucoup de changements à la fois, parce que le renforcement des connaissances dans le domaine des faits religieux est une affirmation qui date depuis quelques années. Il y a un certain nombre de choses qui bougent avec les nouveaux plans d'études, parce que je crois que dans le nouveau plan d'études pour l'école primaire, la question des fêtes est placée dans une perspective d'histoire et de comparaison. Donc il y a des clés. Simplement, dans le quotidien, et je dirais dans une absence de sérénité qui permette aux enseignants de déployer leurs outils, de se les approprier, de les construire, il y a évidemment des interpellations constantes. Madame l'a montré au niveau de l'école de culture générale, au niveau de l'école primaire, quand l'enfant arrive avec ce qu'il vit dans sa famille, l'enseignant qui a jusqu'à 24 élèves doit tout d'un coup faire la part des choses et répondre dans l'instantané. Et il y a une posture à construire, et c'est ce sur quoi nous avançons, et c'est quelque chose qui va se construire tranquillement, sereinement, mais qu'il faut construire effectivement avec une réflexion qui doit être faite sur la transversalité. Il y a une nécessité pour les enseignants d'accepter de ne pas tout porter et d'accepter d'être dans une sphère de responsabilité qui est celle de leur expertise métier, et de laisser la part éducative aux familles et de faire place, mais avec le recul professionnel, à ce qu'on peut appeler la croyance ou ce qui fait la part de l'individu. Et c'est compliqué, parce que c'est extrêmement compliqué, parce que vous n'avez pas, dans votre parcours académique, eu tous les éléments pour répondre. On a vu que pour le Canada, les questions d'actualité, les questions de genre, il y a des questions qui sont vives, qui nous placent les uns et les autres dans une propre réflexion avec ce qu'on est, avec nos faiblesses, nos forces, avec notre histoire de vie. Quand on aborde la mort avec les enfants, eh bien, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas et qui peut faire peur, et on le comprend. Et on le comprend, parce que les adultes ont de la peine à parler de certaines choses. Et alors, c'est des choses que les enseignants doivent, eux, gérer au quotidien. C'est clair que c'est difficile, ça, on le reconnaît. Et il faut simplement, maintenant que la dynamique a été mise au département d'instruction publique, se mettre ensemble à construire ces outils qui ne seront jamais fixes, qui ne seront jamais définitifs, parce qu'il y a toute une partie que vous avez appelée, je fais le détour par le Canada parce que c'est peut-être plus facile d'être compris comme ça, philosophique, et puis une question d'être. Et c'est pour ça que les choses sont compliquées, et on a beau être clair et réexpliquer les choses, on est face à des êtres humains qui sont face à d'autres êtres humains et avec des interventions qui brouillent très souvent toutes les cartes à tous les niveaux, médiatiques, politiques, familiales, etc., dans l'incompréhension et le malentendu.
Alors, je pense que ça nous renvoie effectivement à la discussion la plus difficile, qui est celle de la formation des professeurs. Quelle formation ? Et au fond, avant même d'en venir là, il y a plusieurs personnes dans la salle qui se demandent, mais est-ce bien vraiment aux professeurs d'histoire, par exemple, ou de géographie, de faire ce travail, d'acquérir ces compétences complémentaires, ou est-ce qu'il ne faudrait pas avoir des enseignants spécialisés qui aient une formation plus solide, peut-être en anthropologie, en connaissance des différentes religions et si vous la demandez à M. Weiss, c'est au fond, comment ça se passe au niveau européen? Est-ce que les deux solutions sont favorisées? Avoir des enseignants spécialisés sur le fait religieux ou faire traiter le fait religieux dans le cadre de l'enseignement général?
Oui, ça, c'est très différent dans les pays européens. Et c'est pourquoi on ne peut pas généraliser. Ce qui est nécessaire, c'est une pluralisation une pluralisation aussi aux universités, qui est vraiment une pluralité sans dominance d'une conviction. Par exemple, à Hambourg, on a créé une académie de religion mondiale où les religions et aussi des philosophies sont recherchées, on fait des recherches dans ces domaines par des collègues qui appartiennent aussi à ces religions. C'est une pluralisation des points de vue spécifiques dans la religion, mais en même temps, il faut aussi avoir une science de religion qui fait une comparaison. C'est-à-dire, je ne veux pas dire trop de notre approche, mais ça se fait très différent en Europe, mais il y a une certaine tendance que des structures du 19e siècle où il y avait une certaine dominance en ce qui concerne les religions, que cela est perpétué. Mais je voudrais aussi dire une chose sur les traditions. Quelquefois, on a l'impression que les traditions sont un bloc. On peut faire une description, et Calvin, il a été né là, et mort là, et il a écrit ça. Je pense que c'est une approche de la tradition qui n'est pas trop intéressante. Il faut le savoir, mais à mon avis, les traditions, par exemple, Calvin n'est pas seulement une figure qui est intéressante pour ceux qui sont calvinistes, mais pour toute la population. Parce que pour moi, comme quelqu'un de l'extérieur, je pense que Calvin est quelqu'un qui a fait une interprétation contre les autorités de son temps, une interprétation aussi, à mon avis, très individuelle, une interprétation soi-même irrespective de ce que les autorités ont dit. Mais c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de révolutionnaire aussi à l'école. Où à la fin, il faut résumer les résultats, gagner les notes, etc. Et c'est pourquoi il y en a une échelle de tradition avec une certaine mesure de savoir quelque chose en commun, mais puis c'est aussi l'interprétation de cette tradition qui mène dans un chemin d'interprétation qui est nécessaire pour tous les secteurs de la population. Et la même chose pour les fêtes, mais je ne veux pas dire trop.
Merci. À travers votre exposé, Madame Gonzalez, on a l'impression quand même que les professeurs seraient sacrément demandeurs d'appui extérieur. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous voyez les choses, vous. Est-ce qu'il suffit d'avoir une meilleure formation ou est-ce qu'il faudrait imaginer quand même des interventions plus spécialisées ?
Oui, ils sont demandeurs d'appui et de formation. En tout cas, ceux que j'ai rencontrés ont soulevé cette question. Ils font aussi beaucoup pour se débrouiller seuls. Ceux qui ont mis en place des séquences pédagogiques ou des cours optionnels dans le domaine font beaucoup de travail seuls. J'en ai rencontré d'autres qui se sont mis en commun pour partager du matériel pédagogique. Donc, ils arrivent quand même à répondre avec les moyens qu'ils ont. Je pense que c'est meilleure sera la formation et plus dense sera leur formation, mieux ils se sentiront. Maintenant, quelle était l'autre partie de la question ?
Au fond, est-ce qu'ils sont demandeurs de formation ou est-ce qu'ils sont éventuellement demandeurs d'intervention extérieure pour les aider à dénouer certaines situations ?
Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Ça dépend des enseignants. Ceux qui se sentent à l'aise, je pense, ne sont pas demandeurs de personnes venant de l'extérieur. Maintenant, j'ai aussi rencontré des enseignants qui ne se sentent pas capables d'en parler et qui sont assez opposés à parler de ça en classe. Ce n'est pas la majorité. La majorité de ceux que j'ai rencontrés étaient intéressés par en parler et en parler eux-mêmes. Maintenant, voilà, j'ai en mémoire un témoignage d'un enseignant qui m'a dit « Mais bon, le problème, c'est que je n'ai jamais étudié ça. Donc, j'aimerais bien en parler, mais j'aimerais aussi mieux connaître. »
Je vous remercie. Il y avait M. Benz qui voulait intervenir sur cette question.
Moi, je voulais d'abord reconnaître tout le travail qui était fait par le DIP depuis quelques années pour justement... créer une ouverture, et je dirais même une décrispation chez les enseignants par rapport à ces questions. J'ai eu l'occasion de le rencontrer, d'avoir des séminaires avec Valo Outmacher à la FAPC, où les gens disaient « Ah oui, dans le fond, on a le droit, tout en respectant justement les convictions. » Il y a une sorte de libération, il parlait de libération de la parole, d'oser faire qu'il y ait débat dans la classe, au lieu de dire « Non, on ne parle pas de ces choses », bon, tu penses cela, ton camarade pense cela, et introduire au débat. Bien, ça, c'est quelque chose qui passe, qui vient maintenant, et c'est grâce, je crois, au fait de tout ce qui a été introduit ces dernières années, et aussi des propositions de formation continue. Il se trouve que, avant enseignant de physique, puis devenu pasteur, c'est un peu particulier, mais j'avais proposé justement, il y a 23 ans, des séminaires de formation continue avec des approches plurielles où il y avait la dimension aussi religieuse des intervenants de différentes religions. Et c'est là que j'ai vu que tout de suite, il y a eu un intérêt très fort, mais suite après, M. Baird a souhaité qu'il y ait des séminaires de formation continue sur le fait religieux. Et qui, séminaires qui ont un vrai succès. Et puis, chose quand même étonnante que j'ai envie de reconnaître, c'est que, devenu pasteur, on m'a demandé de continuer d'organiser ce genre de séminaire. Ce qui veut dire que c'est déjà possible pour un pasteur de rester dans une déontologie professionnelle qui respecte les croyances, et deuxièmement, qu'on m'a fait confiance. Bien sûr que si ça n'avait pas marché, si j'avais dévié dans ma... il y aurait eu un contrôle, il y aurait eu un arrêt. Et j'aimerais aussi dire cela, qui est source de confiance, c'est que dans une école, il y a une forme de contrôle soft, mais qui se fait entre les différentes tendances. Il n'y a pas trop de risques. C'est pour tout ce qu'on prépare, eh bien, on se parle, on sait que, et si quelqu'un se met à dévier, eh bien, il y aura une correction, je dirais, au sens... presque fraternelle, en tout cas entre pairs. Et c'est ça qui doit aussi nous décrisper. Et je me réjouis aussi de tout ce qui est entrepris et de ce que vous venez de dire par rapport à la formation, par rapport à ces nouvelles postures qu'on peut développer. Et je tiens à le souligner, pas seulement mon nom, mais aussi au nom du groupe citoyen que je représente.
Mais c'est l'harmonie et la diversité admirable dans cette... Je plaisante.
Madame, juste la question d'introduire des spécialistes des questions liées à la connaissance des faits religieux. Dans les exemples que nous avons vus sur l'école de culture générale, nous avons vu qu'il y a des questions qui se posent en cours de biologie, qui se posent en cours de français, qui peuvent se poser en cours d'histoire, de géographie, d'éducation citoyenne, même peut-être au cours de gymnastique, etc., pour toutes sortes de raisons. Donc, dans ce qui concerne le parcours en scolarité obligatoire, je ne vois pas comment les élèves auraient la maturité ou la capacité de retenir leurs questions pour attendre la visite du spécialiste pour les poser. Et donc, on priverait quand même d'une très grande dimension qui est inhérente au livre, à la lecture, à l'histoire, à la géographie, si on ne pouvait pas aborder un certain nombre de ces questions parce qu'on les déléguait à un spécialiste.
L'un n'est pas forcément exclusif de l'autre, mais je donne la parole à Philippe Bourgeot sur cette question.
C'est juste pour une toute petite remarque, mais il m'a semblé, parce que j'ai participé donc maintenant depuis 2 ans, je crois, à des formations continues sur les grands textes, et en voyant la difficulté quand même de certains maîtres par rapport à ces domaines, il me semble que, là je m'exprime à titre tout à fait personnel, hein, j'ose d'autant plus le faire que je suis retraité, donc je ne parle plus pour ma paroisse. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il est certainement très utile d'avoir des formations continues, c'est même nécessaire. C'est capital, c'est fondamental et c'est très bien. Il faudrait le développer, mais il faudrait aussi une formation de base. Là, c'est dans le sens de ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une formation de base pour créer un nouvel enseignement, puisque le choix du canton a été fait. C'est-à-dire qu'on a décidé qu'on ne ferait pas une branche spécifique histoire des religions. Donc il ne s'agit pas d'introduire une branche spécifique, mais il s'agit quand même de former les maîtres qui vont devoir parler des faits religieux dans différents contextes, de les former à l'exercice que cela représente, et qui est un exercice que l'on offre aux étudiants à l'université, effectivement, quand on fait de l'histoire des religions, c'est-à-dire ce qu'on appelle les exercices de comparaison. Où on met les étudiants ensemble pendant 2 heures sur un sujet commun qu'ils traitent en fonction de leur spécialité. C'est-à-dire qu'il y en a qui font de l'arabe et du Coran, d'autres de l'hébreu et du judaïsme, d'autres des religions de l'Antiquité ou de l'histoire tout court. Et on leur pose des questions. Comment ça se passe chez vous, dans votre domaine, sur tel ou tel sujet qui touche aux faits religieux ? Et on apprend comme ça, c'est pas une question de connaissance, parce que je pense que les maîtres d'histoire sont tout à fait capables de lire des livres et de s'instruire, c'est pas un problème. Mais il y a une attitude, il y a une posture, il y a une manière de gérer la discussion dont a parlé d'ailleurs extrêmement bien Mireille Estivales tout à l'heure. Elle m'a beaucoup intéressé avec son affaire du dialogue. Et la gestion du dialogue, et ça fait partie de la pédagogie de l'histoire des religions en quelque sorte, et ça ne s'improvise pas, et à mon avis ça devrait faire partie de la formation de base des maîtres, Mais ça, c'est un avis personnel dont j'assume la responsabilité.
La gestion du dialogue, c'est un problème, effectivement, pour les enseignants?
Alors, je rebondis volontiers là-dessus. C'est-à-dire que, d'une part, je pense que quand on a dit qu'il y avait une formation initiale, alors peut-être au vivre ensemble au sens général, au parler à l'enseignement du fait religieux, elle est inexistante, en tout cas pour le primaire, ça c'est sûr. Et puis, je me disais, en écoutant tout ce qui est dit ce matin, notamment par rapport à l'introduction des grands textes aussi d'orientation, comment est-ce qu'on recherche une cohérence depuis 4 ans, depuis l'âge de 4 ans, la première primaire Armos, hein, jusqu'à 15 ans, sur ces thématiques-là? Et comment est-ce que, moi, enseignant de première primaire, je prépare mes élèves à aborder, quelques 8 années plus tard, l'étude des grands textes? Moi, il me semble qu'il y a quand même une pratique qui se développe de plus en plus au primaire, pour lequel il y a eu un peu des réticences au niveau de la direction générale à l'époque, c'est le dialogue philosophique en classe, qui est quelque chose d'extrêmement intéressant, parce qu'on sort d'une logique du dialogue et de la relation pédagogique en classe qui est « je te pose une question et j'attends de toi que tu me donnes la bonne réponse », mais qui est de se dire « on va mettre en jeu un sujet et on va réfléchir ensemble et tout le monde est en droit de penser ce qu'il veut de ce sujet ». Et peut-être qu'à force de partager des idées là autour, on va arriver à un point qui va nous être provisoirement satisfaisant, parce que c'est souvent des débats extrêmement ouverts et qu'on pourrait prolonger longtemps. Donc je pense que ça, c'est une pratique à encourager dans le sens de développer l'esprit critique chez les élèves, qui peut ensuite leur permettre d'aborder, dans un enseignement peut-être plus structuré, plus organisé, des grands textes, avec justement cet apport et cet esprit critique.
Je vous remercie. Je sens beaucoup de frustration autour de la table. Je suis sûre que le débat pourrait continuer très longtemps entre nous. À ce stade, au moins, ce qui en ressort, c'est qu'au fond, si les problèmes sont énormes, on sent qu'il y a des choses qui se construisent, hein, une culture qui se construit tranquillement, qui peut commencer à répondre aux questions. Mais des questions, je suis sûre que vous en avez. Alors, saisissez votre occasion. 1, 2, 3, 4, 5. Première personne qui a un micro. Oui, il y a cette dame.
J'aimerais adresser une question au professeur Bourgeot. Voilà. C'est une question à propos des grands textes et à propos de ce que vous venez de dire sur le texte relatif à la résurrection dans le Nouveau Testament. Vous avez une position extrêmement intéressante. Vous dites qu'entre l'Ancien Testament et le Nouveau, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que vous ne parlez pas de résurrection de résurrection chrétienne dans les grands textes. Or, professeur, c'est tout à fait différent. Le christianisme s'organise autour de la résurrection du Christ. C'est un texte qui est vraiment fondateur. Si on ne le cite pas, on enlève aux élèves un outil de connaissance. Donc, il y a un gros trou dans la mosaïque. Et je crois que vous avez une attitude qui est quand même assez extrême quand vous privez les élèves d'un outil de connaissance qui leur permet d'agrandir leur vision des sociétés culturelles. Et j'espère que votre attitude n'est pas définitive.
Madame, je crois qu'on a beaucoup abordé ce sujet, donc très rapidement, vraiment très rapidement.
Oui. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer dans un débat d'histoire des religions. Je vous mets en... Oui. Citez-moi le texte du Nouveau Testament où il est question de la résurrection des corps.
Je ne crois pas qu'on va entrer là-dedans, franchement.
Non, mais je veux dire, on est là dans un énorme débat. C'est-à-dire qu'à l'époque où de l'écriture des évangiles... il y a des théologiens dans la salle qui en savent 10 fois plus que moi. Enfin, je veux dire, c'est compliqué, mais croyez que j'ai pris quand même l'avis des biblistes et on travaille quand même avec eux. Cette affaire-là, elle est fixée au Moyen-Âge, ça, c'est d'une manière très, très évidente, mais avant, c'est un peu compliqué. Donc, voilà, nous, j'ai péché par défaut académique, je reconnais. C'est-à-dire que j'ai voulu rester rigoureusement scientifique. Et rigoureusement scientifique, ça voulait dire parler de la résurrection des corps, puisqu'il s'agissait d'en parler, puisqu'on parlait de la mort. Donc il fallait évoquer cette formule. Et on a choisi de le faire en relation au judaïsme, parce que là, c'était clair. ça n'est pas depuis le début d'ailleurs, ça fait partie de l'histoire du judaïsme, mais ça se développe à l'époque, aux alentours de l'époque du Christ d'ailleurs, dans le judaïsme. C'est pour ça qu'on en a parlé à propos du judaïsme. Alors, bien évidemment, nous avons commis une grosse erreur, et à vous entendre, j'en mesure l'immensité. Nous aurions dû mettre ici, on a failli le faire d'ailleurs, mais je ne sais pas pour quelle malheureuse, le diable a dû intervenir. On aurait dû mettre une image des cathédrales, enfin, je ne sais pas, d'un tympan où on voit le jugement dernier, des monstres dévoreurs et des choses de ce type-là. Et là, on aurait pu expliquer ce qu'il en est dans le christianisme tel qu'il a été conçu peu à peu, mais tel qu'il n'est pas tombé d'un coup à l'époque du Christ. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que mais là, on entre dans des débats qui sont trop compliqués. Je veux dire, il faut faire un séminaire là-dessus, mais c'est pas le lieu. Mais disons que cette doctrine de la résurrection des corps n'est pas constituée telle que nous l'imaginons aujourd'hui à l'époque de l'écriture des textes du Nouveau Testament. Voilà.
Cela dit, ça illustre bien la difficulté, j'imagine, de l'enseignant qui doit expliquer ça à un élève croyant. Je ne sais pas qui a réussi à avoir le micro. Oui.
Évidemment, il a été question, et vous avez raison, de la formation des enseignants. C'est nécessaire, c'est évident, c'est utile. Mais il faudra aussi aborder la question de la formation des formateurs. Parce qu'il y a quand même une chaîne de transmission. Et là, peut-être, on peut répondre à la question d'enseignants spécialisés. Il faudra certainement des formateurs particulièrement spécialisés pour bien former les enseignants. Que pensez-vous de cette prise en compte d'une qualité des formateurs ayant peut-être même une spécialisation sur le fait religieux ?
Je propose qu'on prenne peut-être un petit groupe de questions et puis qu'on voit après qui peut répondre autour de la table parce qu'on n'a plus beaucoup de temps.
Oui, merci. On a beaucoup parlé du fait religieux, qu'on a même un petit peu assimilé au fait historique. Avec des terminologies qui nous font un peu basculer dans un registre technique, on parle d'outiller les enseignants. Alors ma question est, on sait avec Ricoeur que même les faits historiques sont des faits mouvants, qui évoluent, qui sont insaisissables, et qu'un fait historique a affaire à un récit. Alors ma question, elle est, est-ce que cette terminologie n'a pas une maladresse? Alors au sein du DIP, on a essayé d'éviter l'écueil en parlant des grands textes, mais là, on a une maladresse qui est peut-être encore plus grave, ou je ne sais pas. On sous-entend qu'il y a les grands textes et puis peut-être les petits textes. Alors, ma question, elle est, je n'ai pas la prétention de changer le vocabulaire, mais est-ce qu'il n'aurait pas été plus habile de parler de récits religieux ? Et au sujet de ces récits religieux, j'aimerais poser une question à M. Weissé pour concrétiser en fait que même dans le discours politique, on est toujours dans un récit. Quelle attitude a-t-il, puisqu'il s'occupe il est correspondant de l'Institut européen en sciences des religions. Là aussi, on utilise un terme où on fait croire qu'on est dans du dur. Alors bon, si on sait qu'on est dans une science molle, ça va. Ma question à M. Weissé serait, par rapport au récit ou au discours politique sur la Constitution européenne, comment aborde-t-il le fait qu'il n'ait pas été inscrit, peut-être en suivant l'historien Paul Venn, les racines européennes de l'Europe?
On prend encore une ou deux questions et puis on répond. Oui.
Alors, les racines de l'Europe, je parle pas.
Oui, moi j'aurais encore une question par rapport au comment. J'ai envie aussi de rebondir par rapport à la question qui a été posée ici, par rapport au récit. Tout à l'heure, un des messieurs qui est à table, je ne connais pas le nom, au niveau des syndicats, parlait d'appréhender les textes. Hein, comment passer à 4 ans, comment préparer des enfants pour apprendre des textes en 9e ou 11e année. Plutôt qu'appréhender, est-ce qu'on pourrait dire questionner? Et si on parle de récit, on questionne. Derrière un récit, il y a des acteurs. Donc qui tient ce discours, ce récit. Pourquoi? Quelles sont les intentions? Quels sont les enjeux? Et de là, c'est peut-être un outil, hein, formation, former des enseignants, former, je crois qu'il y a aussi un des protagonistes qui nous a d'ailleurs aidés à débattre en classe, c'est donner des outils aux enseignants pour pouvoir permettre aux élèves de saisir le problème, de questionner et de problématiser. Et j'ai souvent entendu ce matin que les enseignants devaient répondre du tac au tac, une histoire de transmission, de réponse. Et j'ai envie de dire ici, est-ce qu'on pourrait aider nos élèves à questionner et rester un moment, que ce soit dans l'histoire, dans la géographie, de la question. Voilà, merci.
Alors, je renvoie peut-être les questions maintenant un peu autour de la table. Je rebondis sur la dernière, qui est la question, au fond, de former au dialogue, former à faire émerger la parole plutôt qu'à répondre directement. Et si j'ai bien compris, c'est une des formations qui est dispensée au Québec.
Oui, effectivement, le programme d'éthique et culture religieuse, c'est vraiment une formation au questionnement. C'est pas trouver absolument les bonnes réponses, surtout en éthique. C'est vraiment apprendre à réfléchir, apprendre à argumenter, apprendre à raisonner et apprendre à avoir une pluralité de réponses possibles. Bon, même chose en culture religieuse, on voit une diversité de religions. Alors, vous avez tout à fait raison sur la nécessité de donner des outils aux enseignants, des outils didactiques appropriés. Je dois dire qu'on a une abondance quand même d'outils de publication, d'outils sur Internet. Donc c'est trouver ces bons outils, savoir les utiliser à bon escient, savoir aussi avoir un esprit critique. C'est quelque chose moi, sur lequel je travaille avec mes étudiants quand je les forme. C'est vraiment avoir cet esprit critique par rapport aux outils appropriés qu'on peut utiliser. Donc c'est un aspect extrêmement important. Bon, puisque j'ai la parole, je vais répondre à divers aspects. Sur la question de la formation des formateurs, ben oui, effectivement, bon, on remonte. Hein. Mais là, je pense qu'on dispose quand même, dans nombre de pays, de très bonnes structures de formation à l'histoire des religions, à la science des religions, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'ethnologie. Et donc on dispose quand même de formateurs compétents, qui sont capables eux-mêmes de former à leur tour, parce qu'effectivement, c'est comme une formation en réseau, en fin de compte. Hein. Je voulais juste revenir rapidement sur la question des spécialistes religieux qui était évoquée tout à l'heure par rapport à leur présence en classe. Personnellement, je suis extrêmement réservée par rapport au fait d'inviter en classe, devant des élèves, des représentants de différentes religions, parce que je crois qu'il y a toujours un risque de prosélytisme ou un risque de vouloir dire... Ben, ma tradition à moi est plus intéressante ou meilleure, donc il faudrait bien choisir. C'est pas parce qu'on est un musulman qu'on va forcément être capable de bien présenter l'islam de façon pédagogique. C'est pas parce qu'on est protestant ou catholique qu'on va être capable de faire la même chose. Donc les spécialistes religieux, je trouve que c'est quelque chose qui est à double tranchant. Par contre, la visite d'un lieu de culte avec la rencontre, dans le cas du lieu de culte, d'un représentant de la religion en question, là, à mon sens, devient beaucoup plus pertinente et intéressante. Et puis enfin, il y a un autre aspect qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'évoquer, mais qui est très intéressant, c'est l'interdisciplinarité. Je pense qu'il faut décloisonner les disciplines, il faut décloisonner les sciences, et il faut montrer aux élèves la pertinence des liens qu'on peut faire entre différentes approches. Je pense, on a évoqué la question du créationnisme, que ce n'est pas aux professeurs de sciences de parler du créationnisme, qui n'est pas une option scientifique, il faut le dire extrêmement clairement. Par contre, il est tout à fait pertinent, s'il y a des questionnements, de voir dans quel contexte, bon, et par exemple au Québec, en éthique et culture religieuse, on pourrait avoir cette réflexion-là, ce partenariat entre les théories scientifiques autour de l'évolutionnisme, et puis d'autres discours, qu'il ne faut d'ailleurs pas forcément mettre non plus en opposition systématique, en ne voulant pas faire dire à la religion ce qu'elle ne cherche pas à dire. Galilée ou d'autres l'ont dit beaucoup mieux que moi. Et je crois que le fait de décloisonner, de travailler sur l'interdisciplinarité est vraiment une porte d'entrée très, très intéressante. Je pense aux Français, bien évidemment, et le travail sur les textes peut y inviter. Je pense à l'histoire, à la géographie, aux sciences sociales. Je pense à la philosophie et je pense aux arts. Et je pense qu'avec les arts plastiques, on peut vraiment réaliser des activités extrêmement intéressantes et qui montrent combien la religion n'est pas quelque chose du passé, quelque chose de folklorique, mais quelque chose qui fait sens aujourd'hui, qui a fait sens dans l'histoire de l'humanité, et que travailler sur ces significations à partir de ces multiples portes d'entrée peut être extrêmement constructif.
Je vous remercie. C'est presque aussi beau qu'une conclusion, mais on va prendre peut-être une dernière question.
C'est simplement pour dire ma reconnaissance pour la clarté de certaines interventions et puis me dire que je suis toujours aussi ahuri qu'il a fallu depuis 1994, on ne bouge pas. Et à mon avis, il n'y a pas eu 15 conseillers d'État depuis cette période. Alors je reviens à une question taboue, la proportion global, sans entrer dans le détail, des chrétiens et des autres religions dans les classes. La deuxième, quid de l'enseignement des philosophies? Si on étudiait Bertrand Russell, le mathématicien, on croirait moins, on hésiterait devant certaines affabulations de Raël. Et pour terminer, vous avez parlé, madame, d'exemples étrangers. Pourquoi pas s'inspirer de la méthode belge de laïcité, qui est moins catégorisante que la française, ou demander au professeur Bourgeot, qui connaît très bien l'école de Chicago, quelques idées, quelques principes d'éducation qui pourraient accélérer un petit peu le processus à nos jeunes qui ont bien besoin de quelques éléments.
Alors, des suggestions, peut-être encore une question, je vois quelqu'un oui, qui a un micro.
Je peux... Moi, j'ai deux questions, ça va être relativement simple. Donc, la première, je vais la lire. Donc, que pensez-vous de la loi qui vient d'être votée au Tessin d'interdiction du port de la burqa dans l'espace public? Ça, c'est ma première question. Puis, deuxième question, c'est la dotation en heures, parce que c'est bien beau, c'est des grands textes, c'est très bien. Mais le problème, c'est que c'est dans les cours d'histoire. Le civis, je me rappelle qu'il n'y a plus qu'une heure en 9e année Armos, il n'y a plus rien en 10e année Armos, il n'y a plus rien en 11e année Armos. Donc, les sciences humaines sont les parents pauvres, on est sous-doté en horaire. Mes collègues du cycle, ils disent que c'est très bien d'enseigner les grands textes, mais des heures. Là, j'ai aussi Charles Bert est là, j'en profite. C'est un petit problème pour le civisme en général. Voilà, la citoyenneté, il n'y a plus qu'une heure en 9e Armos. Et on veut créer des citoyens responsables.
Je vous remercie. Encore une question? Non? On vous l'a repris?
Écoutez volontiers, mais c'est aussi davantage, peut-être plus une remarque qu'une question.
Et oui, alors, concentrez là.
Contre les idées reçues, je vais essayer de la concentrer au maximum. C'est d'abord la question des formateurs des formateurs. Il me semble qu'à Genève, l'histoire des religions, ça existe à l'université. C'est quand même un point qu'il faut rappeler. Et qu'il faudrait peut-être aussi, dans ce contexte, envisager de doter plus convenablement que jusqu'à présent. Mais ça, c'est un autre problème. Et puis, je remarque dans le même sens que M. Benz regrettait, d'une certaine manière, que la constitution de cette brochure grand texte ait été laissé précisément aux historiens des religions et qu'on aurait pu prendre certains savoir-faire, notamment sur la critique biblique, chez nos collègues de la faculté de théologie. Et puis je tiens quand même à signaler à ce niveau-là que c'est là encore peut-être une certaine fausse question ou une idée reçue, parce que l'histoire des religions à Genève, précisément, qui a été consultée pour la fabrique des grands textes, ne se pratique précisément pas selon une logique de clocher, et que ce n'est pas le travail d'une bande de laïcars contre les théologiens de la faculté d'en face, mais que le plan de formation des historiens des religions à l'Université de Genève est un plan extrêmement complexe, qui est en collaboration très active avec la faculté de théologie, et réciproquement. Et donc, finalement, la critique biblique de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, l'histoire du christianisme qui s'enseigne à Genève en faculté de théologie, est pleinement intégrée au plan d'études d'histoire des religions à l'Université de Genève. Et puis la dernière remarque aussi, c'est que donc, les grands textes ne sont pas l'expression d'une certaine science des religions contre la théologie. Je pense que ça, c'est une idée reçue. Et surtout, pour ce mot science aussi, rappeler une fois pour toutes que la science n'est pas plus ou moins dure ou plus ou moins molle comme un œuf. Elle est d'abord une attitude intellectuelle à l'égard des questions qu'on se pose.
Alors, c'était effectivement vraiment pas du tout une question, mais on va peut-être laisser quand même M. Benz, qui a été interpellé, répondre brièvement.
Vous voulez vous répondre? D'accord, très bien. Puis moi, je suis pour l'éducation.
D'accord.
Non, je sais bien ce que vous avez dit. Ce que j'aurais souhaité, c'est que des professeurs qui ont des compétences et qui sont en dialogue avec les sciences des religions puisse intervenir. Ce n'est pas défendre un clocher, parce que justement, je crois que la faculté de théologie a une ouverture qui est reconnue, et puis que vous reconnaissez vous-même. Donc, voilà, je crois qu'il n'y a pas de quiproquo. Ce que je pense aussi par rapport aux autres questions, les outils et tout, il y a du matériel. Moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'il y ait davantage de collaboration. Ben, on a entendu des choses de part de M. Weissé, de Mme Estivalès. Et il y a des réflexions au Québec qui se font et qui peuvent être pour nous aussi très nourrissantes, qu'il faudra prendre au sérieux. Il y a aussi du matériel dans d'autres cantons. Ce n'est pas interdit de voir ce qui se fait ailleurs. Il y a maintenant ce qui s'appelait Ambiro, qui était l'enseignement biblique dans le canton de Vaud, était complètement transformé et c'est devenu Agora, qui justement propose du matériel qui est complètement déconfessionnalisé. Et qui peut être aussi utilisé. Des choses très intéressantes, notamment sur les textes de la création. Et pour dire que c'est vrai, je soutiens ce que vous disiez, on peut faire un travail sur les textes qui font polémique pour voir ce qu'ils disent vraiment. Et c'est comme dans tous les domaines, trouver des valeurs communes, c'est en cherchant ce qui est de l'ordre du même. Il y a du même avant d'avoir du différent entre les élèves. Et chercher ce qui est de l'ordre du même pour arriver aux valeurs universitaires. Mais d'abord, qu'ils aient conscience qu'il y a du même chez l'autre. Ça, c'est peut-être une tâche aussi à laquelle il faut travailler.
Je vais être très censurante et je vais décider que nous avons terminé. Parce que c'est l'heure. Je suis désolée, madame, mais j'ai l'impression qu'on est quand même un peu tombé dans la discussion maintenant. À des points plus de détails qu'on avait finalement réussi à aborder un certain nombre de thèmes de façon un peu générale, que moi je constate en tout cas au fond beaucoup plus de congruence et de construction de dialogue entre les différents intervenants que ce que je pouvais imaginer en venant ici, donc c'est une bonne nouvelle, mais je crois que je vais remercier chaleureusement tous les participants pour leurs apports et pour leur silence pour ceux qu'on a un peu brimés, et je vais céder la parole à monsieur le conseiller d'État, dont je pense qu'il n'est pas nécessaire de vous le présenter.